Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Secrétaire général de l'ONU déclare un joyeux Eid al-Adha et espère une paix mondiale. 40 000 musulmans palestiniens accomplissent les prières de l'Eid al-Adha à la mosquée Al-Aqsa. Vice-président de MPR, RI invite à faire de l'Eid al-Adha 1445 Hijri un moment d'unité nationale. Ministre des Transports appelle à l'achat de véhicules électriques dans chaque ministère pour l'IKN. Aéroport Ngurah Rai ajoute un accès à l'Australie via Canberra. Hendra et Hassan sont finalistes à l'Open d'Australie 2024. Et double féminin indonésien remporte le titre de champion de l'Open d'Australie 2024. Mon cher joueur, voici la nouvelle en complet. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souhaité dimanche 16 juin sur le compte de réseau social X un joyeux Eid al-Adha et sa solidarité avec les musulmans du monde entier qui ne peuvent pas célébrer avec leurs proches en raison du conflit en cours. Guterres a également exprimé l'espoir que la solidarité et l'empathie continuent dans la célébration de l'Eid al-Adha pourraient amener chacun à réaliser la compassion et la paix pour le monde. L'Eid al-Adha, également connu sous le nom de fête du sacrifice, a commencé à être célébré dimanche en Turquie et dans de nombreux autres pays. Pendant ce temps, en Indonésie, le ministère indonésien de la région islamique a déterminé que l'Eid al-Adha 2024 tomberait le lundi 17 juin 2024. Pas moins de 40 000 Palestiniens ont accompli les prières de l'Eid al-Adha à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem oriental dimanche 16 juin en deuil de leurs frères et sœurs musulmans victimes de la guerre israélienne dans la bande de Gaza. Cité par Antara dimanche 16 juin, le département des dotations islamiques de Jérusalem a déclaré que la congrégation musulmane palestinienne accomplissait les prières de l'Eid al-Adha suite à une fermeture stricte qui a empêché des milliers d'autres personnes d'entrer à Al-Aqsa. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que les forces d'occupation israéliennes ont attaqué des fidèles dimanche matin alors qu'ils se dirigeaient vers la mosquée Al-Aqsa. Et alors qu'ils quittaient la mosquée et ont empêché des dizaines d'autres d'entrer pour les prières de l'Aïd. Effectuer les prières de l'Aïd à la mosquée Ibrahimi à Hebron, dans le sud de la Cisjordanie, occupée malgré les restrictions de sécurité imposées par l'armée israélienne à l'entrée des fidèles. Le chef du département Wakaf d'Hebron, Ghazan Ar-Rajabi, a déclaré à Anadolu que les mesures prises par l'occupation à l'occasion de l'aide à l'Adha visaient à empêcher les Palestiniens d'accéder aux lieux saints, notamment à la mosquée Ibrahimi. Le vice-président de MPRRI, Lestari Mourjiat, a invité un public à faire de la célébration de l'Aïd al-Adha 1445 Hijriya un élan pour continuer à favoriser l'esprit de soin des autres ainsi que les valeurs éthiques de morale. Afin de réaliser l'unité nationalité citée par Antara dimanche 16 juin, le Sari a déclaré que les valeurs de bienveillance peuvent également renforcer les efforts visant à construire des valeurs de coopération mutuelle. Il espère que les valeurs morales, éthiques et de bienveillance envers les autres envisagées lors de la mise en œuvre des sacrifices lors de l'Aïd al-Adha continueront d'être maintenu. Ceci est nécessaire pour que la nation soit en mesure de répondre aux différents défis auxquels elle est actuellement confrontée. Dans le cadre des missions dans la capitale d'État indonésienne, Ikn, le ministre des Transports, Budikarya Sumadi, a appelé les ministères à se procurer des véhicules électriques dans chaque ministère. Cité par Antara dimanche 16 juin, Budikarya Asmaran a déclaré que le plan directeur d'IKN donne la priorité au transport public et à la mobilité à faibles émissions afin de créer un lieu durable et de fournir un système de transport équitable pour la communauté. Les grands principes d'une mobilité urbaine, durable et accessible incluent la fourniture de transports en commun de haute qualité comme épine dorsale de tous les services de mobilité. Ensuite, la fourniture d'un système de paiement intégré entre les transports publics routiers et ferroviaires et la fourniture d'un cadre gouvernemental intégré pour la planification, la gestion et la surveillance du système de transport urbain. L'aéroport Igusti Ngurah Rai a de nouveau reçu une route internationale supplémentaire reliant Bali à l'Australie qui peut désormais passer par Canberra. Cité par Antara dimanche 16 juin, le directeur général de l'aéroport Igusti Ngurah Rai, Handy Heriudityawan, a déclaré qu'avec l'exploitation de Batik Air sur la route Canberra-Denpasar depuis le vendredi 14 juin dernier, l'aéroport Igusti Ngurah Rai dessert actuellement 9 itinéraires de vol direct vers l'Australie. Handy s'est également félicité de l'ouverture de cette route, l'aéroport pouvant à nouveau augmenter ses routes internationales à 35 routes avec 38 compagnies aériennes desservant. Il est également optimiste sur le fait que la route de Canberra est prometteuse et peut accroître la connectivité entre les deux pays. D'autant plus que l'Australie est le pays avec le plus grand nombre de touristes sur l'île des Dieux. Double masculin indonésien Hendra Setiawan Muhammad Hassan est arrivé deuxième du journal BWF Super 500 Australian Open 2024 dimanche 16 juin. Cité par Antara dimanche, Hendra Hassan a dû admettre sa défaite face à la première paire de tête de série choisie He Chi-Ting, Ren Chiang-Yu au tour final lors de deux matchs consécutifs 11-21, 10-21. D'autre part, l'Indonésie a remporté un titre de champion et deux titres de vice-champion à l'Open d'Australie 2024. Double féminin, Febriana Dwipuji-Kusuma et Amelia Cahaya-Pratiwi ont remporté le titre après avoir remporté le match en caoutchouc contre les représentants malaisiens Lai Pei-Ching, Lim Chiu, sien dans le match au sommet avec un score de 12-21, 21-7, 21-13. Pendant ce temps, en simple féminin, Esther Nurumi Triwardoyo a remporté le titre de vice-championne après avoir perdu contre la deuxième tête de série japonaise Aya Ohori. Dans un match serré, 21-17, 19-21, 16-21 au tour final. Double féminin indonésien Febriana Dwipuji-Kusuma Amalia Cahaya-Pratiwi a remporté le tournoi BWF Super 500 Australian Open 2024 dimanche 16 juin. Antara a rapporté que le partenaire Dana Tiwi a remporté le championnat après avoir remporté le match de jeu en caoutchouc contre les représentants malaisiens Lai Pei-Ching, Lim Chiu, Sien dans le match suprême avec un score de 12-21, 21-7, 21-13. Il s'agit de la deuxième finale d'Anna Tiwi sur la tournée asiatique cette année. Après avoir été finaliste à l'Open de Thaïlande 2024, jusqu'à présent sur les trois représentants participant à l'Open d'Australie 2024, l'Indonésie a remporté un titre de champion d'Anna Tiwi ainsi que le titre de finaliste du simple féminin Esther Nurumi Triwardoyo, le double masculin indonésien Hendra Setiawan et Muhammad Hassan est devenu finaliste du tournoi BWF Super 500 Australian Open 2024. Bonjour, j'ai c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Les nouvelles réglementations chinoises pour accroître les tensions en mer de Chine méridionale ». La Chine a commencé samedi 15 juin à appliquer de nouvelles réglementations de garde-côte qui leur permettent de détenir les étrangers qui entrent sans autorisation dans la mer de Chine méridionale contestée. Selon l'AFP, dimanche, la détention est autorisée jusqu'à 60 jours dans les cas compliqués, y compris les navires étrangers considérés comme entrant illégalement sur le territoire revendiqué par la Chine et dans les eaux environnantes. D'un autre côté, les Philippines ont également demandé la reconnaissance de l'ONU pour leur revendication d'étendre le plateau continental sur l'île la plus proche de la zone très controversée de la mer de Chine méridionale. Dans un dossier déposé samedi, Mani a affirmé avoir le droit de fixer la limite extérieure de son plateau continental à 350 000 makang ou 648 km au large de la côte ouest de l'île de Palawan, la limite maxima autorisée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou NCLOS. On ne peut nier que les mesures prises par Mani sont étroitement liées aux nouvelles réglementations chinoises dans les eaux contestées. C'est une question qui requiert l'attention du monde entier, car la stabilité dans cette région est un intérêt mondial. Le commerce des navires traversant la mer de Chine méridionale représente chaque année des milliards de dollars. On pense que d'importantes réserves inexploitées de pétrole et de gaz se trouvent sous les fonds marins, même si les estimations varient considérablement. La confrontation entre la Chine et les Philippines suscite des inquiétudes quant à un conflit plus large. Toutes les parties devraient encourager la paix dans la région, car le conflit en mer de Chine méridionale perturbera la stabilité non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau mondial. Les efforts visant à résoudre le conflit en mer de Chine méridionale par le biais du code de conduite et des perspectives de la Chine sur l'Indo-Pacifique, OOIP, doivent continuer à être encouragés afin que la paix et la stabilité, en particulier la sécurité maritime, puissent continuer à être maintenues. La OIP proposée par l'Indonésie et acceptée en 2019 est devenue le document de référence de l'ASEAN en soulignant son rôle d'acteur principal dans la sauvegarde de la région de l'Asie du Sud-Est, surtout du fait de l'affrontement de plus en plus aigu des grandes puissances mondiales dans la compétition d'intérêts ou projection de puissance dans la région Indo-Pacifique. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonjour à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui avec moi Audrey. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec le 17 juin 1948. Les Jacheneh ont fait don d'or au gouvernement pour acheter des avions. Le premier président de l'Indonésie, Sukarno, a prononcé un discours à Kutha Raja, aujourd'hui Banda Aceh, a demandé au peuple de faire un don à la République, qui était encore vulnérable en raison du trésor public vide. Avec l'aide de Tengku Muhammad Daud Bure, en un peu de temps, 20 kg d'or ont été collectés. L'enthousiasme des Achehnés à donner des fonds à la République ne peut être séparé de l'euphorie de la fin du colonialisme thaïlandais. Avec l'argent donné par la population d'Aceh, le gouvernement de Sukarno de l'époque, via Wiwiko, un officier de l'armée de l'air, a acheté à Singapour un avion C-47 de Kota qui a ensuite été exploité par l'armée de l'air comme moyen de transport pour les fonctionnaires de l'État. En signe de gratitude envers les habitants d'Aceh, l'avion a reçu le nom de Selawa ou bien Golden Mountain, en montagne d'Aceh, ensuite rebaptisé Indonesia Airways, qui est devenu le précurseur de la compagnie aérienne Garuda Indonesia. Nous continuons l'histoire d'aujourd'hui avec le 17-1959, décès de l'écrivain Abdul Muiz. Abdul Muiz, écrivain, journaliste et héros national indonésien, est déclaré 17 juin 1959. Abdul Muiz est né le 3 juin 1883. À Bukit Tinggi, dans l'ouest de Sumatra. Il était le fils de Dato Tumenggung Lareh, Sungai Puar, originaire de la Minangkabau. Le sang de Minangkabau coule. Abdul Muiz a un grand esprit d'aventure. Depuis qu'il est adolescent, il a osé quitter sa ville natale pour émigré vers les îles de Java. En fait, il a passé à sa vieillesse à l'étranger. Cet écrivain qui était également journaliste est décédé à Bandung le 17 juin 1959 à l'âge de 76 ans. Son corps a été enterré dans le parc des héros de Cikutra, Bandung. Il a laissé derrière lui deux femmes et 13 enfants. Abdul Muiz a été inauguré comme le premier héros national par le président de la République d'Indonésie, Sukarno, le 3 août 1959. Chers amis, nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 17 juin 1970. Le premier appareil photo Polaroid est breveté par Edwin Herbert Land. Le 17 juin 1970, l'appareil photo Polaroid a été breveté par son inventeur Edwin Herbert Land. Le nom initial de l'appareil photo Polaroid était dû au fait que les utilisateurs pouvaient immédiatement voir les résultats via des feuilles de photos. Par conséquent, l'appareil photo Polaroid est également appelé un appareil photo instanté. Edwin a invité l'appareil photo Polaroid parce qu'il s'est inspiré de sa fille, Jennifer Land, qui a fait trois ans. À cette époque, en prenant des photos, la fille a demandé pourquoi ne pourrait-elle pas voir immédiatement les photos de l'appareil photo. Edwin a utilisé pour la première fois un appareil photo Polaroid en 1944. Dès lors, il créa immédiatement un système de photographie en une seule étape qui fut explosée lors de la réunion de l'Optical Society en Amérique en février 1957. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Hey dia jeling mata, aduh mas senyum lagi. Amboy nona manis sekali. Dia mengernyit, Amboy ma aku dicubit. Siapa dia? Oh putri remaja. Hey, dia malu-malu di balik selendang yang biru. Hey, dia senyum padaku. Itulah gadis impianku.
Première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
C'est Rita pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie et la Chine qui renforcent leur coopération en matière de transition énergétique et industrielle. Le ministre coordinateur des affaires maritimes et l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a effectué une visite de travail en Chine la semaine dernière. Au cours de sa visite, Luhut a rencontré entre autres le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine et la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme, NDRC. Selon un communiqué de presse du ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, lors d'une réunion bilatérale avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au géoparc de Changbeishan le 13 juin, Luhut a souligné deux étapes importantes. Premièrement, la création d'un groupe de travail chargé de promouvoir la coopération en matière de sécurité alimentaire et de santé. Deuxièmement, les trois domaines de coopération tels que le développement vert, le développement numérique et le bien-être des citoyens orientés pour mettre en œuvre de divers mémorandums d'accord intergouvernementaux signés en 2023 dans les domaines de la coopération en matière d'économie numérique, de transition énergétique et en naval. À cette occasion, Luhut a également déclaré que les entreprises chinoises qui ont collaboré avec l'Indonésie dans le domaine des investissements dans les énergies vertes devraient également inviter leurs fournisseurs à investir dans le pays. En particulier, l'industrie des batteries à base de nickel utilisera la production de nickel en Indonésie. Pendant ce temps, lors d'une réunion avec le président de la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme NDRC, Zheng Shanji, mercredi, Luhut a espéré que la NDRC pourrait soutenir la coopération entre CBL ou Ningbo Contemporary Brand P. Leijen et IBC, Indonesia Battery Corporation, pour le projet de production de matériaux pour batteries et projet de recyclage de batteries dans la zone industrielle de Buli au nord de Moluk. Citant l'agence de presse Antara, le projet de CBL dans la zone industrielle de Buli, qui s'étend sur 2000 hectares, sera un centre de production et de services pour les ressources en batterie de véhicules électriques. Le projet comprend du minerai de nickel latéritique, des produits dérivés du nickel, des matières premières pour batteries à énergie nouvelle, ainsi que le recyclage des batteries. Grâce à l'intégration des ressources et de la technologie et au soutien des deux gouvernements, le projet devrait renforcer la position d'Indonésie dans l'industrie mondiale des batteries et renforcer la coopération économique et technologique entre l'Indonésie et la République populaire de Chine. C'est tout le temps, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Sejuritak, la tradition Mogang Aceh consiste à abattre des animaux sacrificiels afin d'accueillir l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, ainsi que d'accueillir le mois sacré du Ramadan. La tradition Mogang qui se déroule actuellement se situe à H-1 ou H-2, ou un jour ou deux jours avant du Ramadan, ainsi qu'à H-1 et H-2, ou un jour et deux jours avant l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha. La mise en œuvre de Mogang à Aceh se fait généralement par l'abattage d'animaux tels que des vaches, des buffles ou des chèvres. Cette tradition a commencé sur le royaume d'Aceh en 1607 à 1636 après Jésus-Christ. Initialement, cette tradition était perpétuée par le sultan Iskandar Muda qui abattait des animaux en grand nombre et distribuait la viande gratuitement en guise de gratitude et de remerciement au peuple et célébrait également l'arrivée du mois sacré du Ramadan. Lorsque les Néerlandais conquirent le royaume d'Aceh en 1873, cette tradition n'est plus appliquée par le roi. Cependant, la tradition Mogang est enracinée dans la vie du peuple d'Aceh, donc, quelles que soient les conditions, cette tradition est toujours perpétuée à ce jour. La tradition Mogang contient des valeurs religieuses en faisant l'aumône ou en partageant avec d'autres communautés qui ont plus de capacité envers les communautés défavorisées. Pour les habitants d'Aceh, cette tradition est aussi une forme de solidarité tout en inculquant les valeurs de solidarité et de coopération mutuelle. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Segala harapan rembulan menyahi semalam.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien.
Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la Voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Sering Makan. Sering Makan. Tu manges souvent. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation intitulé Sering Makan. Sering Makan. Tu manges souvent. Cette conversation se déroule entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et Sortauli, une amie de la communauté vlog de Chris, au lac Singkarak. Sortauli a invité Chris à manger des plats de poisson bili autour du lac Singkarak. Bon écoute.
Selanjutnya, kita ke Danau Singkarak.
Ya, nanti kita makan ikan bili goreng di sekitar Danau Singkarak.
Kamu sering makan di situ?
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulées Sering Makan. Sering Makan. Tu manges souvent? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase, deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Kamu. Kamu, tu. Sering. Sering, souvent. Makan. Makan, manger. Disitu. Disitu, là-bas, ou i. Kamu sering makan disitu. Kamu sering makan disitu. Tu y manges souvent? Selanjutnya. Selanjutnya, ensuite. Danau Singkarak. Danau Singkarak. Lac Singkarak. Ikan bilih goreng. Ikan bilih goreng. Poisson bilih frit. Di sekitar. Di sekitar. Dans l'entourage. Chers amis, dans cette conversation, vous avez entendu la phrase Kamu sering makan di situ? Kamu sering makan di situ? Tu y manges souvent? Dans cet énoncé, il y a un adverbe sering. Sering, souvent. Le mot sering, sering, souvent, marque la fréquence d'une activité qui est effectuée. Dans cet énoncé, l'expression sering makan, mange souvent, est utilisé pour exprimer la fréquence de manger à plusieurs reprises ou plusieurs fois. Chers amis, un autre exemple. Allez écouter des exemples d'utilisation du mot sering, sering, souvent, dans d'autres phrases. Chris sering berkunjung ke Indonesia. Chris sering berkunjung ke Indonesia. Chris visite souvent l'Indonésie. Sortauli sering menulis pengalamannya di blog. Sortauli sering menulis pengalamannya di blog. En français, Sortauli écrit souvent sur ses expériences sur le blog. Le poisson bili est un poisson endémique qui vit dans le lac Singkarak. La longueur d'un poisson bili adulte peut atteindre 10 cm. Il a un goût délicieux alors qu'il est frit pour que beaucoup de gens l'aiment. Le poisson bili peut être frit, sec ou cuit avec n'importe quelle épice. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Selanjutnya, kita ke Danau Singkarak.
Ya, nanti kita makan ikan bili goreng di sekitar Danau Singkarak.
Kamu sering makan di situ?
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Espagnol, Arabe, Mandarin, Japonais et Indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical. Et nous présentons la chanson de Kroncong intitulée « Jangan berhenti mencintaiku » chantée par Mosley Kroncong. Chers amis, cette chanson Kroncong, créée par Dori Kalmas et Sekar Ayu Asmara, a été popularisée par Titi DJ et c'est la chanson principale de l'album Bahasa Kalbu, sorti en 1999. Cette chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui ressent un amour profond et trouve le bonheur lorsqu'il est avec son partenaire. Il espère donc que son partenaire ne changera pas et sera toujours à ses côtés. Bonjour, je tard. Voici Mosley Kroncong. Va chanter une chanson Kroncong intitulée « Jangan berhenti mencintaiku ». Bonne écoute.
Dalam cintaku temukan bahagia. Jangan berhenti mencintaiku, meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun dalam cinta.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.